Bien, bienvenue à tous pour la reprise de cet interminable feuilleton. Avant de passer aux choses sérieuses, j'ai quelques indications de calendrier, car le cours sera interrompu par deux fois pour des raisons extérieures à ma volonté, mais liées à d'autres événements qui ont lieu au collège. Donc il n'y aura pas de séminaire et de cours le 19 novembre, la semaine prochaine, et le 3 décembre. Et le cours ira jusqu'au 14 janvier. Ça nous fera malheureusement 6 séances et pas 7, mais les contingences d'occupation du site ne permettent pas de faire autrement. Donc ne venez pas la semaine prochaine, c'est surtout ça qui est important. Vous pouvez venir, mais pas pour moi en tout cas. Voilà, c'est donc ce point essentiel sur lequel il me fallait intervenir en début de séance. Donc, l'année dernière, nous étions comme d'habitude en plein suspense, puisque nous avions vu en long et en large et en travers le sommet de Camp David II, et nous avions analysé les causes de cet échec dû largement à une forte impréparation du sommet en tant que tel, et évidemment aussi à des prises de position de départ, enfin des prises de départ qui sont extrêmement éloignées les unes des autres, ce qui fait que aussi les États-Unis, par la présence du président Clinton, donnent un maximum de soutien politique au président du Conseil israélien, Premier ministre israélien Ehud Barak, dont la position parlementaire est plus que fragile, puisqu'il a perdu la majorité à la Knesset. Mais du coup, les Américains font porter la responsabilité de l'échec sur la partie palestinienne, contrairement aux engagements qu'ils avaient pris avant le sommet. Mais c'est bien, d'un côté, de faire porter la responsabilité sur les Palestiniens, et d'autant plus qu'on est en pleine campagne électorale aux États-Unis, puisque les élections de novembre se rapprochent, novembre 2000, avec le fait qu'évidemment le vice-président Al Gore est candidat à la succession de Clinton et que par ailleurs, Hillary Clinton, l'épouse du président, est elle-même candidate à la fonction de sénateur de l'État de New York. Et là où il y a un électorat juif extrêmement important. Mais en même temps, c'est toujours le problème avec ce dossier palestinien, c'est qu'on ne peut pas le laisser de côté. Parce que si on pouvait le laisser de côté, ça ferait longtemps qu'on l'aurait laissé de côté, parce que tout le monde sait que c'est pratiquement impossible à résoudre. Mais si on le laisse de côté, les choses empirent et on se retrouve avec encore plus de problèmes. D'où le fait qu'on a une autre échéance, qui est celle du 13 septembre 2000, date où doit se terminer la période intérimaire prévue par les accords d'Oslo, et dans lequel donc les Palestiniens s'estiment en droit de proclamer leur État, puisque la période intérimaire est terminée. Donc les Américains veulent à la fois apporter du soutien à Barak, mais éviter une explosion à partir du 13 septembre. De même, durant ce mois d'août 2000, les responsables israéliens de la sécurité s'inquiètent du risque d'une implantation de militants islamistes radicaux appartenant à la mouvance du djihad international de Ben Laden, ceci dans la bande de Fadam, en Palestine. Alors, c'est presque cocasse, parce que ça provoque la vertueuse indignation de Cheikh Yassine, le chef spirituel du Hamas, qui explique que d'un côté, le Hamas n'a pas de relation avec Ben Laden, et qui en même temps a le droit de coopérer avec quiconque dans le monde contre l'ennemi qui occupe son territoire. Mais il ne le fera pas avec Ben Laden. Tout ça est une main-d'œuvre israélienne, explique Cheikh Yassine, pour obtenir plus de fonds des États-Unis et accroître les pressions pour forcer l'autorité palestinienne à agir contre le Hamas. En fait, pour être plus clair, le Hamas fait partie d'une coalition plus large qui comprend le Hezbollah et l'Iran chiite. Et pour cette coalition, le djihad international, Al-Qaïda, nous sommes avant le 11 septembre, je vous le rappelle, c'est l'ennemi, puisque pour les djihadistes, les chiites sont pratiquement mis au même rang que les chrétiens et les juifs, dans leur vocabulaire, les croisés et les juifs, comme ennemis. De ce fait, on a le paradoxe qui dure jusqu'à maintenant, presque jusqu'à maintenant, qui fait que le Hezbollah, en tenant le Liban Sud, fait barrière au djihad international pour intervenir en Palestine contre Israël. En ce sens-là, le Hezbollah protège Israël d'Al-Qaïda. Je dis jusqu'à maintenant parce que là, les choses ces dernières semaines ou ces derniers mois ont changé puisqu'il y a des éléments djihadistes sur le Golan aujourd'hui avec la catastrophe syrienne. Mais avant, c'était le cas. Par ailleurs, il y a bien des djihadistes dans le secteur, pour l'instant, en 2000, mais ils sont au Liban Nord. Ils ont des relations extrêmement troubles, ces djihadistes, avec les services secrets syriens. On ne sait pas qui manipule qui dans cette affaire, mais en tout cas, les services syriens utilisent les djihadistes pour contrer l'influence des arafatistes dans les camps palestiniens du Liban. Alors, comme Arafat est boycotté par Washington, il fait comme d'habitude sa tournée du monde pour montrer qu'il existe encore et que tous les grands de ce monde le reçoivent. Il va donc en Afrique du Sud, en Chine. Il visite 15 capitales en 18 jours. Alors le sommet, évidemment, c'est sa rencontre avec Nelson Mandela, que vous voyez sur cette photo. Il faut rappeler que durant la lutte de l'ANC contre le régime de l'apartheid, les Palestiniens étaient évidemment du côté de l'ANC, tandis qu'Israël coopérait militairement avec le régime de l'apartheid. Ce qui fait que les gens de l'Afrique du Sud n'ont pas oublié la coopération militaire entre Israël et le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et par ailleurs, il y a une interprétation de communauté de destin entre le sort des Africains noirs et des Palestiniens, ce qui explique la chaleur des relations entre le Fatah et l'ANC, qui sont en quelque sorte issus de la même matrice des mouvements de libération nationale du tiers-monde dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, Arafat tire conclusion de cette tournée qu'il n'obtiendra ni sommet arabe ni même une réunion de la conférence islamique parce que Israël et les États-Unis mènent une contre-campagne efficace pour l'empêcher de recueillir des soutiens effectifs. Autrement dit, à la 13 septembre, il n'y aura pas des gens pour le soutenir pour la création de l'État palestinien. Alors, comme d'habitude, parce que ça fait partie du rituel, l'Égypte de Moubarak félicite les Palestiniens pour leur fermeté, puis offre les bons offices comme canal de communication avec les États-Unis. Alors, le président égyptien fait savoir que si on trouve une solution acceptable pour les mosquées du Haram, qui assurait le libre passage des pèlerins musulmans au lieu de prière sans aucun contrôle israélien, on aurait le soutien saoudien. Il insiste sur la nécessité d'une souveraineté palestinienne, mais la partie israélienne y voit le début d'une distinction entre les mosquées et l'ensemble de l'esplanade, ce qui paraît encourageant. En fait, on nage parfaitement dans l'absurdité diplomatique, puisque comment peut-on accéder au Haram sans passer par des contrôles de la police israélienne ? C'est strictement impossible. On a là, évidemment, des propositions vides de sens, à moins d'admettre que Jérusalem-Est soit séparée de Jérusalem-Ouest et qu'il soit en continuité territoriale avec le reste de la Cisjordanie. Deux questions qui ne sont pas réglées. En tout cas, Moubarak renvoie une nouvelle fois le signal à Washington que tout compromis sur Jérusalem qui ne laisserait pas la souveraineté sur le Haram aux Palestiniens provoquerait dans la région une explosion qui ne pourrait pas être contrôlée. En revanche, les Saoudiens confirment qu'ils accepteraient la formule permettant aux fidèles musulmans d'accéder au Haram sans contrôle israélien. Mais on ne comprend pas comment ils pourraient accéder de cette façon à l'esplanade. Donc, autant Arafat ne reçoit pas de soutien pour la création d'un État palestinien, autant les messages qui lui reviennent de l'ensemble de la région est de se montrer particulièrement ferme sur la question de Jérusalem. On s'inquiète dans les autres pays de la région sur la possibilité que Arafat troquerait le droit au retour des réfugiés contre une amélioration de la position à Jérusalem. Et finalement, pour la Syrie, le Liban et la Jordanie, qui accueillent la plus grande partie des réfugiés palestiniens, il est impensable qu'on puisse régler la question des réfugiés palestiniens sans que participent à la discussion les gens sur qui les millions de réfugiés vivent. Or, tout ça n'est pas entré dans la perspective du processus de paix, sauf dans le cadre des multilatérales prévues par Oslo et qui sont pour le dossier des réfugiés confiés au Canada. Mais ces multilatérales sont paralysées depuis plusieurs années. Par ailleurs, les mêmes États sont intéressés par le fait que l'on promette de bonnes indemnités aux réfugiés palestiniens et commencent à dire qu'après tout, eux aussi ayant payé pour accueillir les droits les réfugiés, ils auraient le droit à une partie des dites indemnités. On commence à sortir les calculettes pour évoquer le coût qu'aurait représenté pour leur pays l'accueil des Palestiniens depuis 1948. Alors, comme toujours dans tout ça, vous avez les pistes 2 et 3, les Canal 2 and 3, Track 2, enfin bon, vous voyez, toute la série de ces filières parallèles qui continuent de fonctionner. Il y en a une qui s'ouvre le 31 juillet entre les deux négociateurs israéliens Shlomo Ben-Ami et Gilad Shar, et de l'autre côté, les deux négociateurs palestiniens, Sareh Barakat et Dahlan. Sagement, pour l'instant, on met de côté le Haram Sharif pour étudier les autres dossiers. Mais comme on est en track 2, donc en piste parallèle, on a toujours le même problème. Qui parle au nom de qui ? Quel est le mandat de ces négociateurs ? Sont-ils là pour explorer des solutions qui seraient ensuite transmises à leurs supérieurs pour trancher ? Ou ont-ils le droit de proposer directement solutions ? Alors, comme d'habitude encore, on travaille à préciser le contenu de propositions qui sont censées ne pas exister, parce qu'il ne faut pas laisser de traces. Si on laisse des traces, ça voudrait dire qu'on aurait cédé sur telle ou telle chose. Et ensuite, dans la suite de la négociation, on serait obligé de repartir là où on se serait arrêté. Donc, on n'a pas de compte-rendu officiel fiable de ces discussions. En tout cas, ce canal va fonctionner durant le reste de l'été 2000, une quarantaine de fois en deux mois, ce qui est considérable. Mais Shlomo Ben-Ami, qui a été nommé ministre des Affaires étrangères, ne peut venir qu'épisodiquement participer au canal, d'autant plus que le canal, il est secret. Et qu'en général, on connaît les déplacements d'un ministre des Affaires étrangères. Du coup, il est un peu schizophrène, puisqu'en tant que ministre des Affaires étrangères, il accuse Arafat d'avoir fait échouer le processus de paix, et en même temps, il est en train de négocier avec les émissaires d'Arafat sur le même processus. C'est pas évident d'être un homme politique. Alors là, vous avez une excellente caricature égyptienne. Quand David 1, quand David 2, on est au bord du précipice, et quand David 3, on est dedans. Ah, c'est doit être d'août, mi-août 2000, mais ça montre bien l'atmosphère du moment. Alors, dans ce canal, on recherche ce qu'on appelle des solutions créatives. C'est-à-dire, en général, une solution créative, ça consiste à changer le vocabulaire. L'équipe israélienne propose de dire le bassin sacré pour désigner le secteur du Hamesh Sharif. On échafaude diverses hypothèses définissant des degrés variables de souveraineté. Ainsi, on pourrait internationaliser le Haram, puis le Conseil de sécurité en donnerait la garde aux Palestiniens. Donc, on ferait la distinction entre la garde et le territoire qui lui-même serait internationalisé. Mais c'est les Arabes qui contrôleraient l'accès à l'esplanade. De même, on travaille à déterminer plus concrètement la nature des statuts accordés aux différents quartiers arabes de l'agglomération de Jérusalem. Des progrès sensibles sont enregistrés, mais on sort toujours au même problème de la répartition des responsabilités en matière de sécurité et d'urbanisme, qui sont les deux dossiers vitaux. Le 9 août, Arafat fait savoir qu'il veut absolument arriver à un accord parce que la survie de l'autorité palestinienne est en jeu. Il adresse une lettre à Clinton. Quand on sera arrivé à proximité d'un accord dans le canal secret, on reviendra vers lui pour lui demander son intervention. Mais on est maintenant en pleine campagne présidentielle et législative aux États-Unis, et donc Clinton ne peut pas lui répondre de façon positive. De plus, Arafat et les Palestiniens sont inquiets du fait que le candidat démocrate, Al Gore, a désigné comme colistier, donc pour la vice-présidence, Joseph Lieberman, qui est un sénateur juif, et c'est le premier juif américain à postuler à la vice-présidence des États-Unis. Et par ailleurs, il est un partisan notoire de l'État d'Israël. Du coup, et ça devait être une erreur tragique pour les Palestiniens, ils vont tendance à escompter plutôt une victoire des Républicains avec leur candidat George W. Bush, qui, après tout, pourrait reprendre la ligne assez favorable aux intérêts palestiniens qui avait été celle de son père en 1991-1992. Alors, on ajoute que le colistier de George Bush dans l'élection, c'est Dick Cheney, qui paraît lié aux intérêts pétroliers, et donc a priori des intérêts pétroliers, ce serait plutôt pro-arabe. Donc on espère un retour au temps heureux de James Baker. De ce fait, la visite en Israël de Condoleezza Rice, qui est la conseillère en politique étrangère de George Bush, ne réussit pas à dissiper cette dangereuse illusion. Cette spécialiste de la défunte Union soviétique montre une méconnaissance complète du dossier et refuse même de rencontrer un quelconque responsable palestinien. Campagne électorale oblige. Elle est venue pour affirmer que l'administration Bush défendrait la seule démocratie dans un environnement très difficile. En façon générale, Arafat a pour le moins une compréhension très imparfaite du jeu politique américain. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. En particulier, c'est toujours illusionné sur l'ampleur des pouvoirs du président des États-Unis. Et ignore complètement le danger que représente la coalition qui soutient George Bush, celle des néoconservateurs et des fondamentalistes protestants, qui sont, pour des raisons totalement différentes, très favorables à Israël et très hostiles aux Palestiniens. Alors, parallèlement, les Égyptiens, toujours aussi s'actifs, parce qu'il faut qu'ils montrent qu'aux uns aux autres qu'ils sont utiles, sinon ils ne recevraient pas leur subvention d'$1,3 milliard des États-Unis par an. Et ils proposent la solution qui serait le mur des lamentations aux Israéliens, le haram aux Palestiniens. Donc, le mur, il est là. Plus le quartier dit juif et le quartier dit arménien aux Israéliens. Le problème, c'est qu'on essaye de savoir si on parle du mur des lamentations ou du mur occidental. Parce que si on parle du mur des lamentations, c'est ce tronçon qui fait 57 mètres, qui est en plein air. Mais si on parle du mur occidental, on le prend dans toute sa longueur, qui fait 497 mètres, et qui n'est pas, donc ces 450 mètres qui ne sont pas visibles, mais qui traversent le quartier dit musulman de Jérusalem. Alors chacun essaye de dire, mais non, ce n'est pas celui-là que je parle. Enfin bon, vous voyez. Alors, de plus, il y a toujours un problème de définition de la population pour la vieille ville. En 1997, statistiques les plus récentes par rapport à 2000, il y avait 31 551 personnes dans la vieille ville, dont 70% de musulmans, 22 188, 20% de chrétiens, 6 290, et 10% de juifs, 3 073. Ces derniers sont surtout installés dans le quartier dit juif, 2 112, ils représentent donc 88% de la population du quartier dit juif, et dans le quartier dit arménien, ils sont 653 sur les 2199 habitants recensés dans le quartier chrétien. Autre négociation, enfin autre élément de la discussion égyptienne, L'idée d'une rétrocession de 94% de la Cisjordanie aux Palestiniens, plus un échange de territoire, alors que Barak, dans son cas de ce canal-là, s'en tient aux 91%, plus un échange de 1% proposé à Camp David, tandis que les Palestiniens restent fermes sur 98%, plus 2% de transfert de territoire. Denis Strauss voulait laisser les uns et les autres un peu mijoter dans leur jus, mais seulement comme il y a deux négociations qui se sont engagées, celle du canal secret plus la négociation via l'Égypte, il faut qu'il intervienne. Donc il fait un voyage touristique à Jérusalem et son entretien avec Arafat le 21 août est particulièrement orageux. Une nouvelle fois, on a une discussion un peu surréaliste sur la localisation du temple de Jérusalem, puisqu'Arafat maintient que le temple était à Hébron et pas à Jérusalem. Et on avait vu l'année dernière qu'Arafat faisait la confusion entre le mont Garizim des Samaritains et le temple historique qui lui-même est beaucoup plus récent que ce que le prétendent les Juifs, mais ça c'est un autre problème. Ross essaye de faire comprendre à Arafat que ça n'a aucune importance de savoir si le temple est à Hébron ou à Jérusalem. Ce qui est important, c'est que le président des États-Unis pense que le temple était à Jérusalem. Et qu'il ne prendra pas au sérieux tout interlocuteur qui lui dira le contraire. Donc on voit évidemment l'influence des écoles des Sunday School, des écoles de catéchisme américain, sur le président des États-Unis. Et donc pour les Palestiniens, il est clair que les États-Unis soutiennent totalement les Israéliens dans la discussion sur le sort de l'esplanade. Alors, si vous voulez, on a, c'est intellectuellement très intéressant, mais c'est pitoyable du point de vue humain, du côté américain, on s'en tient à la version biblique d'une présence plus que millénaire du temple, alors que, je le rappelle, il y a bien évidemment toujours eu un temple à cet endroit-là. Mais le temple, en tant que temple de Jérusalem, point central du judaïsme, n'apparaît que vers 620-600, à peu près, avant Jésus-Christ, selon, en tout cas, ce qu'estime mon cher collègue Thomas Romer, qui a la chaire d'études bibliques au collège. Alors donc, le temple dans cette version-là, si on tient compte du premier et du second temple, de la période intermédiaire entre le premier et le second temple, n'a existé que 7 siècles. Tandis que du côté musulman, c'est le haram qui compte. Et le haram a bien été construit à l'emplacement du temple, mais à une époque où le temple n'était qu'un souvenir. Il avait disparu depuis 6 siècles quand le haram a été construit. 6 siècles, c'est ce qui nous sépare de Charles VI, le roi fou, pour ceux qui ont des souvenirs d'école primaire, à une époque on enseignait encore l'histoire de France. Et ce temple, enfin ce haram, lui, il existe depuis 13 siècles, compte tenu de la période d'un siècle d'occupation par les croisés. Alors, tout ça, évidemment, c'est des raisonnements de critique historique. Et jamais la critique historique n'a ébranlé la foi d'un croyant, qu'il soit juif ou musulman. Les gens sont évidemment des deux côtés complètement étanches. C'est tout. C'est-à-dire, on utilise la critique historique pour démolir les arguments d'autres parties. Mais on ne veut pas l'appliquer sur ses propres arguments. C'est d'ailleurs comme ça que la critique historique est née, vous savez, en Europe. C'est le fait que catholiques et protestants essayaient de démontrer que les uns et les autres avaient tort en utilisant les arguments de la critique historique. Et puis ensuite est arrivé les gens des Lumières qui ont dit « mais les deux ont raison en disant que les autres ont tort ». C'est... Alors, de plus, se pose la question juridique du droit des lieux saints, qui est lui-même une question complexe pour ceux qui ont des souvenirs de mes premiers enseignements. Le 19e siècle avait créé pour les lieux saints de Jérusalem et de Terre Sainte en général la législation du statu quo, qui a été définie par un ensemble d'actes pris par le gouvernement ottoman au début des années 1850. Mais il est évident que cette législation du statu quo ne concernait que les lieux saints chrétiens, puisque par définition, les musulmans n'avaient aucun problème pour défendre leur propre lieu saint, puisqu'ils étaient l'État, jusqu'à 1918. Ils étaient sous un califat musulman et personne n'irait les embêter sur leur lieu saint. C'est avec le mandat britannique, en 1920, que la législation du statu quo a été étendue aux lieux saints musulmans. Et de ce fait, quand il y a eu la crise terrible de 1929, dite l'affaire du mur des lamentations, se renvoie au tome 2 de la question de Palestine, pour faire un peu de publicité, les Britanniques avaient retransmis le dossier à la Société des Nations. Et la Société des Nations avait tranché en 1931 en disant que le mur de lamentation faisait partie du waqf du Haram, donc était bien un lieu saint musulman. Puisqu'à ce moment-là, la Société des Nations avait appliqué la législation du statu quo. Mais les Israéliens ne la reconnaissent plus, ou plus exactement, ils ne prétendent ne la reconnaître qu'en ce qui concerne les lieux saints chrétiens. Alors aujourd'hui, si vous ouvrez les journaux, le gouvernement Netanyahou vous dit « Nous défendons le statu quo sur l'esplanade du Mont du Temple ». Mais dans la perspective israélienne, c'est le statu quo créé par le changement de situation de 1967, pas par l'agrégat juridique de statut depuis au moins l'époque mandataire. Alors, tout ça, évidemment, pèse sur l'atmosphère. En fait, depuis que le dossier du Haram, esplanade des mosquées, mont du Temple, est apparu dans la négociation finale à Camp David, de plus en plus, tout le monde en parle. Et ce qui provoque une montée des tensions des deux côtés. D'une part, les messianistes juifs voient justement dans cette insistance sur le mont du Temple un signe des temps, montrant que le Temple va être reconstruit à sa place originelle. Et de l'autre côté, évidemment, les musulmans craignent de plus en plus, c'est une crainte ancrée depuis des décennies, au risque que comporte l'esplanade et les lieux saints musulmans qui sont sur l'esplanade. Et de ce fait, ils sont totalement intransigeants. Les Israéliens proposent discrètement que peut-être une petite synagogue dans un coin de l'esplanade leur suffirait. Mais immédiatement, les musulmans ont à l'esprit ce qui s'est passé au tombeau des patriarches à Hébron, où, à partir d'un petit quelque chose, finalement, ils ont perdu la moitié des lieux saints, si ce n'est plus. Entre esprit religieux des deux côtés, la tension monte, et contre sécularisme, parce qu'on ne peut pas parler de laïc en Israël, comme on ne peut pas parler de laïc dans les pays arabes, on doit parler de séculariste. Les sécularistes minimisent la question, mais pour les deux côtés, pour ceux qui sont séculiers, c'est-à-dire qui n'ont pas trop de préoccupations religieuses, aussi bien chez les juifs que chez les musulmans, l'esplanade Mont du Temple est un symbole national. C'est même le premier symbole national. C'est ça qui rend la chose particulièrement explosive. C'est qu'en Terre Sainte, les lieux saints sont à la fois des lieux religieux, sacrés religieux et sacrés national. C'est comme si, en France, l'Arc de Triomphe et les Invalides étaient en même temps Notre-Dame et la cathédrale de Reims. Vous voyez la fusion du religieux et du national. Alors, quand les États-Unis s'adressent aux autres gouvernements arabes pour pousser en avant le dossier de Jérusalem, ça provoque des réactions de plus en plus hostiles de la presse arabe sur ce dossier. D'où une montée d'un sentiment anti-américain dans les opinions publiques, alors que normalement le processus de paix devrait enfin permettre aux États-Unis de se réconcilier définitivement avec le monde arabe. Et on a l'habituelle schizophrénie politique de toute classe politique dans n'importe quel pays du monde, c'est-à-dire qu'en privé, les responsables politiques se montrent conciliants, mais en public, intransigeants, puisqu'ils ont des audiences politiques à ménager. Alors, le 20 août, Barak, soit par volonté de proposer un nouvel ordre du jour, soit pour volonté de montrer qu'il n'est pas prisonnier d'un processus de paix en pleine impasse, annonce son intention de faire adopter dans un délai d'un an une constitution prévoyant le principe de l'égalité entre citoyens et un service national pour tous. Alors, il faut rappeler qu'Israël n'a pas de constitution. Parce qu'au moment de la création de l'État, en mai 1948, les religieux se sont opposés à la rédaction d'une constitution, justement parce qu'une constitution aurait tranché sur la place respective du religieux et du politique dans l'État juif en voie de constitution. Donc, au fil des années, Israël s'est doté d'une série de lois fondamentales qui tiennent lieu de constitution. Et puis ensuite, la Cour suprême israélienne a aussi ajouté un ensemble jurisprudentiel qui renforce le caractère constitutionnel d'un certain nombre de dispositions. Mais cela ne fait pas une constitution. Bon, après tout, vous savez, un pays peut vivre sans constitution. La Grande-Bretagne n'a toujours pas de constitution. Mais ça fait partie des plaisirs britanniques. L'Arabie saoudite non plus n'en a pas. La déclaration de Barak est en fait une déclaration de guerre aux partis religieux. Puisque le principe de l'égalité des citoyens implique l'égalité devant le service militaire, or les religieux sont dispensés, pour la plus grande partie, du service militaire. Du coup, les partis religieux accusent Barak de vouloir diviser le pays et de créer une guerre de culture, une Kulturkampf. Les gens ont la rémémoration des grands épisodes de la laïcité en Europe au 19e et 20e siècle. Alors, ce n'est pas tellement la référence française qui compte, c'est plutôt la référence allemande, c'est-à-dire la campagne de Bismarck contre l'Église catholique dans les années 1870-1890, ce qu'on appelle le Kulturkampf, et qui ici est repris littéralement dans le terme israélien en disant qu'il risque de créer une guerre des cultures entre religieux et sécularistes. Mais en même temps, Barak fait ça parce qu'il sait qu'une partie de la droite israélienne non religieuse du Likoud est très sensible aux arguments laïcs et hostile aux religieux. Chef du Likoud, Ariel Sharon, rejette immédiatement la proposition d'une constitution parce qu'il voit très bien, ou il l'aperçoit en tout cas comme une manœuvre politique. Mais Barak dit, en cas d'échec du processus de paix, il proposera au Likoud un gouvernement d'union nationale sur la base de la rédaction d'une nouvelle constitution, d'une loi sur le mariage civil et l'obligation d'enseigner l'anglais et les mathématiques dans les écoles, même religieuses. Et sa première décision est de supprimer le ministère des Affaires religieuses. Rappelons qu'au Proche-Orient, il n'y a pas de mariage civil. Et que quand on voulait faire un mariage civil, il faut aller à Chypre. Ce qui fait que à Chypre, les couples libanais et les couples israéliens se croisent devant les officiers d'état civil, puisque c'est là l'endroit où on peut faire conclure un mariage civil, d'où le fait qu'il y a des agences de voyage spécialisées dans le mariage civil, en tout cas au Liban, je ne sais pas pour Israël, mais pour le Liban c'est le cas, et qui vous vendent des mariages civils avec forfait. Fourniture de témoins, gâteaux, etc. Frais de justice, transport jusqu'à Larnaca, et ainsi de suite. La révolution citoyenne que plaide Barak vise explicitement à combattre le parti chasse, le parti religieux séfarade, qui déjà voit dans la condamnation de son leader Aryeh Deri, à peine de 3 ans d'emprisonnement pour corruption, une accusation, enfin une manœuvre à complot des Ashkénazes qui veulent martyriser la population séfarade. Par ailleurs, les députés arabes disent que s'il n'y a plus de processus de paix, il n'y a plus aucune raison qu'ils soutiennent le gouvernement Barak. Ce qui rend encore plus difficile à Barak la possibilité d'avoir une majorité à la Knesset. D'autant plus que le dossier des permis de construire revient à l'ordre du jour, puisque on accorde que de façon parcimonieuse des permis de construire aux populations arabes, alors que c'est beaucoup plus large aux populations juives. Enfin, chez les Arabes israéliens, depuis un certain temps, comme dans le reste du monde arabe, vous avez des mouvements islamistes qui ont émergé et qui font en Israël en particulier la défense de la mosquée de l'Aqsa, l'un des thèmes principaux de la propagande. Enfin, même si normalement tout est calme, les opérations commando en territoire palestinien de l'armée israélienne se poursuivent. Ainsi, le 16 août 2000, des soldats israéliens déguisés en arabes tuent un septuagénaire qui leur avait tiré dessus, les prenant pour des voleurs. Il semblerait qu'en fait, c'était un exercice d'entraînement de l'armée israélienne qui a mal tourné. Le 26 août, une tentative de s'emparer ou d'éliminer un militant du Hamas, considéré comme responsable de plusieurs attentats dans un gros village près de Naplouse, se termine en fiasco. Le suspect provoque un échange de tirs dans lequel 3 soldats israéliens sont tués par leurs propres camarades. Blessé, il se réfugie à Naplouse, où il est arrêté par la police palestinienne, ce qui le meurt de portée des Israéliens. Une semaine après, il sera condamné à 12 ans de prison par une cour de sûreté palestinienne pour avoir formé des cellules militaires et leur avoir fourni des armes et des munitions. Les actes contre les Israéliens ne sont pas pris en compte. C'est la priorité, c'est lui donner une couverture juridique, parce qu'une fois jugé par un tribunal palestinien, il ne peut plus être extradé en Israël. Ces opérations en zone B, effectuées par ce que les Palestiniens assimilent à des escadrons de la mort, provoquent des interrogations dans l'opinion publique palestinienne. Pourquoi les Israéliens n'ont-ils pas laissé agir la police palestinienne en liaison avec les Américains, comme dans les cas précédents, où il n'y a pas eu de sang versé? Est-ce une volonté des militaires israéliens de créer une explosion de violence dans le contexte actuel très tendu? Est-ce un signal envoyé à Arafat pour lui rappeler qui est le maître sur place à quelques jours de l'éventuelle proclamation d'un État palestinien? Le 29 août, Clinton fait escale au Caire. Là, c'est une autre caricature égyptienne représentant Clinton et Barack essayant de sortir Barack et Arafat du fossé dans lequel ils sont enfoncés. Donc, Clinton fait escale au Caire, rencontre Moubarak, qui lui présente un ensemble de propositions qui ne sont pas divulguées à la presse et qui comportent plusieurs variantes concernant Jérusalem. Ce qui permet à Clinton de dire que l'Égypte est indispensable pour le processus de paix. Donc, tout va bien. À Jérusalem, on est arrivé dans le canal secret à des propositions qui deviennent assez semblables à celles des Égyptiens. Et on a encore évidemment des choses à trancher, mais des progrès nets ont été enregistrés. Du coup, on commence à rédiger un document qui est destiné à devenir un accord cadre. L'idée est de profiter du sommet du millénaire prévu à New York le 6 septembre à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. On pourrait alors tenir un mini-sommet Arafat-Barack-Clinton qui fixerait les lignes directrices pour la rédaction finale qui serait ensuite avalisé lors d'un sommet à la mi-novembre, après les élections américaines. Donc là, on peut maintenant dire, évidemment, après la lumière des événements, les Israéliens sont parfaits pour prédire le passé, qu'on entre maintenant, début septembre 2000, sur ce qu'on peut appeler un compte à rebours. Mais évidemment, les acteurs n'en ont pas conscience. Bien qu'à plusieurs reprises, Barack ait assez assimilé la situation au film Titanic, dans lequel donc, le paquebot se rapproche plus dangereusement de l'iceberg. Alors, le Premier ministre israélien est exaspéré par le fait que Arafat continue d'engranger des succès, sans bouger. C'est-à-dire que depuis Camp David, les Palestiniens continuent de gagner du terrain dans les discussions sans qu'ils aient rien cédé de leur part. Donc, il veut modifier la situation en forçant Arafat à bouger, en accroissant les pressions sur lui. Il déclare donc que le moment de vérité approche, que ce sera une tragédie pour les Palestiniens et pour Israël s'il n'y a pas d'accord, et Israël aura affronté de nouvelles épreuves. Il fait savoir qu'il est plus faible qu'à l'époque de Camp David, donc puisqu'il est plus faible, il peut faire moins de concessions. Il élabore tout un discours selon lequel Arafat se voit plus en combattant qu'un chef de guerre, et il affirme qu'Arafat ne peut pas passer le Rubicon qui ferait de lui un simple gestionnaire de questions administratives. Mais en même temps, il prévient que proclamer unilatéralement l'État palestinien conduirait inévitablement à une confrontation violente. Là, on a une situation classique. Barak est l'homme d'État israélien qui a fait le plus de propositions favorables aux Palestiniens. Donc, en tout cas, du point de vue israélien. Donc, il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses interlocuteurs refusent ces propositions les plus généreuses jamais faites jusque-là. Et il n'admet pas les arguments de l'autre partie qui lui marque que sous son mandat, on a construit plus d'unités de logement pour la colonisation que durant toute période équivalente précédente. Il explique que pour lui, c'était pour calmer les appréhensions de la droite israélienne. De même, on lui fait remarquer que Netanyahou a rétrocédé plus de territoire aux Palestiniens que lui ne l'a fait. Mais là encore, il renvoie tout au règlement final qui doit arriver. Alors, quand il arrive à New York, Barak adresse un quasi-ultimatum à Arafat. Puisque les Palestiniens suivront la décision de leur chef, il a jusqu'à la fin septembre pour faire son choix. Après, ce sera trop tard. Et il explique aux journalistes, « J'ai mis Arafat au pied du mur, comme à Beyrouth en 1982. C'est sa dernière chance pour conclure un accord avec moi. Arafat ne prend des décisions que sous la pression. » Et il fait savoir, d'ailleurs, qu'il a téléphoné pour en discuter avec Sharon. Alors, à New York, les négociateurs israéliens et palestiniens ont amené leur dossier. Et ils espèrent que les Américains feront la synthèse, comme d'habitude. Ross joue le jeu en expliquant aux uns ce qu'ils supposent être les positions ultimes des autres. On voit ainsi émerger un plan prévoyant un État palestinien avec l'équivalent de 93 à 95% de la Cisjordanie, échange de territoire compris. Il serait désarmé, mais doté d'importantes forces de police pour assurer le maintien du régime d'Arafat. Les deux pierres d'achoppement sont le Haram et la question des réfugiés. Pour le premier, il faudrait trouver une formule sans mention de souveraineté palestinienne. Donc, on continue à réfléchir. Et on proposerait, par exemple, de mettre l'esplanade des mosquées sous souveraineté divine. On pourrait l'internationaliser ou éventuellement partager l'esplanade en partie juive ou arabe, musulmane, ou encore diviser le haram entre le sol qui serait musulman et le sous-sol qui serait juif. Pour le droit au retour, on pourrait invoquer... La question du sous-sol est importante, hein, ce n'est pas une plaisanterie, parce que... c'est là où se trouvent les traces archéologiques de l'ancien temple juif. Donc, si on donne une souveraineté israélienne au sous-sol, ça permet aux Juifs d'éviter tout risque de sacrilège par rapport à l'ancien emplacement du temple. Hein, c'est pas une blague qu'on propose de diviser sol et sous-sol du Haram. Pour les réfugiés, on en revient à la fameuse résolution 194-3 de 1949, mais avec le paquet mis sur l'indemnisation. On accepterait symboliquement le retour de quelques milliers de réfugiés palestiniens avec priorité donnée au Liban, mais l'essentiel... serait l'indemnisation des réfugiés, non pas le retour, et la priorité donnée à la sécurité israélienne dans ce dossier. Là, on peut jouer sur le contenu de la résolution 194, puisqu'il est marqué pour les réfugiés qui désirent vivre en paix. Donc ce désir vivre en paix permet de faire une percée sécuritaire sur... ce point. Alors, Barak est essentiellement venu à New York dans une campagne de relations publiques dans le but d'isoler Arafat, et les deux hommes ne se rencontreront pas, sauf par accident, au pied d'un escalier mécanique dans le bâtiment de l'ONU. Le Palestinien se montre particulièrement nerveux. Dans son entretien avec Clinton, il se déclare prêt à mettre le Haram sous la souveraineté du comité de la conférence islamique consacrée à Jérusalem et présidée par le Maroc, par le roi du Maroc. Le président y voit le début d'un changement de position, mais son entourage est farouchement contre. Il n'est pas question d'impliquer la Syrie, l'Irak, la Libye et l'Iran dans la gestion de Jérusalem. Quant à la proposition américaine de souveraineté divine, Arafat répond que même la Maison-Blanche est sous la souveraineté de Dieu, ce qui en bonne théologie est exact. En entretien télévisé avec la présentatrice vedette de CNN, Christiane Amanpour, se passe très mal. Il est vrai qu'elle adopte le discours dominant selon lequel Barak est allé très loin vers les demandes palestiniennes. Arafat lui répond qu'il n'a pas respecté les engagements précédents. Le ton monte rapidement et le président palestinien quitte le studio brusquement avant la fin de l'interview. C'est presque le même scénario avec Madeleine Albright, qui lui demande d'où lui vient l'idée qu'Israël puisse abandonner le site où se trouvait le Grand Temple. Arafat lui répond qu'il y a des restes romains en Grèce, à Gaza, ce qui n'implique pas que l'Italie ait des droits sur la bande de Gaza. Excédé de voir la secrétaire d'État n'utiliser que l'expression « mont du temple », là aussi, il met fin à l'entretien et s'en va. Alors, après le départ des délégations israéliennes et palestiniennes, l'équipe diplomatique américaine se met au travail afin d'élaborer le document de synthèse destiné à devenir le plan américain. Les débats sont particulièrement vifs. Aaron Miller, Robert Malley et Gamal Elal sont partisans de la rétrocession de 100% de l'équivalent de la Cisjordanie avec des échanges de territoires. Leur double argument est qu'il s'agit d'une question de justice et que les autres pays arabes négocient sur cette base. Un retour à 100%. Ils considèrent, Ross s'y oppose au nom des besoins des Israéliens, aussi bien pour des raisons de sécurité que pour des motifs politiques. Ils considèrent qu'avec 93% de la Cisjordanie, les Palestiniens auront un État viable avec contiguïté, et pas continuité, je rappelle la différence, des territoires. Le consensus est général pour s'opposer au droit au retour en territoire israélien. Et il y a peu de différence en ce qui concerne Jérusalem et les questions de sécurité. Ross transmettra à Clinton un document prônant une annexion israélienne de 4 à 8% de la Cisjordanie avec un échange de l'équivalent de 2 à 3%. Arafat est revenu de New York convaincu que le manque de soutien international empêche la proclamation de l'État palestinien. Le 13 septembre. Il réunit le Conseil central de l'OLP, le 10, pour annoncer que les négociations vont continuer et qu'il faut différer la proclamation de quelques semaines. Le contexte international sera meilleur après les élections américaines. Il est approuvé par 58 voix contre 15 et 3 abstentions, mais il n'y a eu que 76 votes sur 129 membres du Conseil central de l'OLP. En tout cas, pour la communauté internationale, c'est un grand soupir de soulagement. Et c'est avec ça qu'on va faire la pause.